Bonjour Robert Badinter et merci de cette rencontre qui a lieu en plus chez vous. Merci de nous accueillir. À travers le président de la République, la France rend hommage en ce moment à la décision de François Mitterrand d'abolir la peine de mort et à vous-même qu'il avait appliqué et imposé. Et pour plus de solennité, c'est le Panthéon qui est choisi. Comment vous ressentez aujourd'hui ce moment dans l'histoire de la République et même du pays, de la France ?
Écoutez, avec plaisir, au Panthéon, il y a enterré de grandes figures républicaines qui ont marqué l'abolition. Les grandes voix de l'abolition, c'est d'abord Jaurès et Victor Hugo qui sont là au Panthéon. Et puis, il y a Condorcet aussi, symboliquement. Donc, c'est bien. Et il est bien de marquer que 40 ans se sont écoulés pendant lesquels l'abolition n'a cessé de progresser dans le monde.
En France, et vous le dites souvent, la peine de mort, c'est fini.
Oui.
Est-ce que vous en êtes sûr ?
Absolument. Sauf un cas. La peine de mort a toujours été l'apanage ou l'expression des dictatures. Il est évident que si nous avions à nouveau une dictature en France, la peine de mort sera rétablie en même temps que la liberté sera supprimée, les droits de l'homme balayés, etc. Ça serait certain.
Mais
je dirais, une constante de l'histoire de la peine de mort que d'être inhérente, structurellement liée au régime totalitaire.
Mais est-ce qu'il y a ce risque-là en Europe et en France aujourd'hui ?
Écoutez, je me refuse même à l'idée de penser que la France puisse devenir, au sein de l'Union européenne, une dictature totalitaire.
Mais...
Et même dans ce cas-là, je rappelle que la France est liée par des accords internationaux.
Que l'on peut rompre.
Pas seulement, aux Nations Unies aussi. Alors vous imaginez un instant la présidente ou le président de la République française allant déchirer la Convention européenne des droits de l'homme, le pacte sur les droits civils et politiques des Nations Unies, les annexes. Enfin voyons, pour la France qui se veut tellement, et dans la bouche de tous ces présidents successifs, la patrie des droits de l'homme, ça serait une aberration.
Mais vous savez que peut-être en période...
Mais je n'y crois pas du tout, hein, je le dis clairement. C'est la seule hypothèse et je la refuse.
Ouais. Mais en période de campagne électorale ou de pré-campagne, vous voyez monter l'envie d'un retour de la peine capitale contre les trafiquants, contre les grands récidivistes, contre les terroristes. Il y a des terroristes qui sont en ce moment jugés après leur tuerie de masse du Bataclan, et on entend une nouvelle fois des voix qui s'élèvent pour rétablir la guillotine.
Mais chacun est libre de ses convictions en France, précisément parce que nous sommes une démocratie. Si nous étions dans un régime totalitaire, les voix minoritaires d'opposition seraient évidemment, ça se tairait.
Oui.
Mais je ne veux pas discuter de ça. Je dis... Rappelez-vous une chose, après l'abolition voulue et votée par le Parlement à l'initiative de François Mitterrand, vous avez eu la constitutionnalisation de l'abolition par Jacques Chirac.
En 2007.
Et je tiens toujours à le rappeler. Par conséquent, c'est un principe constitutionnel. Je ne cesse de répéter, le seul objectif, c'est l'abolition universel. Les progrès dans ce sens sont immenses depuis. Alors, au lieu de me dire « Ah, mais il y a des démagogues qui... » Je préférerais vous entendre me dire quels sont aujourd'hui les progrès effectifs depuis 40 ans de l'abolition. Ça, ce sont des
faits. Il y a des progrès partout.
Et alors là, mais
partout, sauf dans les pays qui sont encore des dictatures, la Chine, l'Arabie Saoudite, l'Iran, etc.
Je vais vous donner des précisions. Quand je suis monté à la tribune de l'Assemblée nationale, nous étions le 35e État dans le monde.
Et aujourd'hui,
il y a 120 États sur 180 abolitionnistes en droit dans leur loi.
C'est formidable, mais le chemin est encore long.
Il s'y ajoute aussi tous ceux qui ne pratiquent pas la peine de mort, même s'il n'ose pas, pour des raisons politiques intérieures, abolir.
Le 16 mars 1981, lors d'un quart sur table qui est désormais historique, François Mitterrand annonçait que s'il était élu, la peine de mort disparaîtrait en France, malgré l'avis contradictoire ou contraire d'une partie de l'opinion, une grande partie. Mais pourquoi il l'a dit, lui, François Mitterrand, à ce moment-là? D'où ça venait?
Mais écoutez, c'est vous, ou plutôt c'est vous deux, Alain Duhamel et vous, qui avez posé la question. Et le matin même, dans mon souvenir, 40 ans de cela, au téléphone, j'avais été prévenu que vous poseriez la question, Duhamel ou vous. Puisque j'ai téléphoné sur le champ à Mitterrand, j'ai dit ce soir...
Mais pourquoi 400... Mitterrand le dit? Si la question n'avait pas été posée, il n'y aurait pas eu l'abolition? Ou il le portait en lui?
Ah non, l'abolition a été, je le rappelle, inscrite au programme des partis de gauche depuis fort longtemps. À cet instant-là, et candidat, il fallait du courage. Il fallait du courage moral pour pouvoir se prononcer ouvertement.
Aujourd'hui, vous regardez la France et les Français, vous les regardez vivre. Dans quoi il faut avoir du courage? Sur quoi il faut du courage? Quand vous entendez que la France décline, etc., etc., et qu'il y a deux Frances, vous, Robert Badinter, qu'est-ce que vous dites? Une France qui est, ou deux Frances côte à côte qui peuvent se taper sur la figure, et un jour qui peuvent être, elles sont côte à côte, elles peuvent être face à face.
Alors, disons-le, regardons là aussi le mouvement de l'histoire. Quand est-ce que la France est grande? Au moment de ses victoires, je le veux bien. Mais le vrai rayonnement de la France, aujourd'hui, comme il était au temps où mon père est venu ici, c'est quoi? C'est l'indéfectible alliance entre la France et les libertés. La France est la patrie de la Déclaration des droits de l'homme, et qu'elle a été la première à formuler ses principes comme étant le fondement d'une société. Et ce texte-là, et ces principes-là, ce sont eux qui rayonnent encore dans le monde. Et la France, elle est le pays de la Déclaration des droits de l'homme, elle doit toujours s'en souvenir, toujours les respecter, parce que sinon, elle n'est plus qu'une puissance qui est importante, et qui n'est plus dominante.
Donc il faut dire aux Français ce que vous dites, et en même temps, peut-être qu'ils ont besoin qu'on leur parle de leur avenir, de la place de la France et de son rang dans le monde aujourd'hui.
La France, elle est d'abord une grande puissance européenne. Et l'Union européenne et l'Europe comme puissance, je le rappelle, c'est la première puissance économique du monde. La France doit être moteur de l'Europe, toujours et constamment.
Exemplaire.
Et à travers là, elle retrouve un grand rôle historique.
Jean-Marie Le Pen est loin. Marine Le Pen voit son électorat s'effriter. On ne peut plus dénoncer en France, comme vous l'aviez fait, la lepenisation des débats et des esprits. Vous êtes d'accord?
Vous évoquez là des hommes politiques passés. Ce n'est pas la question. La question, pour moi, qui n'appartient plus à la scène politique.
Mais la France vit peut-être un moment
clé
de son histoire. Un moment de plus clé de son histoire.
Ce que nous avons aujourd'hui, par rapport à d'autres crises internationales, face à des régimes dictatoriaux qui voulaient notre perte, pardonnez-moi, je dirais, c'est dérisoire. Rappelez-vous seulement parce que ça concerne votre génération, que en 1983, deux ans après l'abolition, il y avait encore des fusées atomiques SS-20 pointées sur Paris par l'Union soviétique.
On n'en est plus là.
Voyons.
Mais vous parlez du passé, de
la. Là, c'était la menace de destruction totale par la guerre atomique. C'est quand même ça que j'ai connu à la table du Conseil des ministres.
Et il y a la guerre.
Alors, les polémiques actuelles, je les regarde. Les polémistes, je les écoute avec un certain sourire de scepticisme.
Oui, mais c'est vous. Vous êtes un des rares à sourire.
Et parfois de mépris.
Un des rares à sourire. Mais quand, par exemple, vous racontez le passé douloureux que vous avez vécu, est-ce que on peut réconcilier Pétain et De Gaulle? Est-ce qu'on peut...
À titre posthume, je pense.
Deux esprits, comme on l'a dit, de France.
Oui, enfin, je rappelle que l'un a fait condamner à mort l'autre par défaut, et que l'autre a été condamné à mort et gracié par le général de Gaulle, c'est de l'histoire, ça. Ce n'est pas une inspiration pour l'actualité.
La majeure partie de votre vie, Robert Badinter, vous l'avez consacrée au droit.
Oui.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il est respecté aujourd'hui?
Écoutez, je considère qu'il a fait des progrès considérables par rapport à ce qu'il était en 1945, quand j'ai commencé mes études, et en 1950-49, quand je suis devenu avocat. Les progrès sont considérables, et j'ajoute qu'ils s'inscrivent dans l'ordre international, qu'aux garanties du droit français, fondamentales, première, s'ajoutent maintenant les garanties du droit international, et notamment de la Convention européenne des droits de l'homme, l'Europe. Vous comprenez? L'Europe, comme disait le grand homme.
Oui, oui, mais il faut que la France, comme vous le dites, soit exemplaire à travers l'abolition, quelquefois vous dites irréversible, de la peine de mort. Une question. Là, l'Église, elle a été marquée, elle est traumatisée par ce qu'elle vient de vivre, ce qu'elle a fait découvrir, de la pédophilie, etc. Est-ce que pour vous, le secret de la confession est plus important que les lois de la République? Comment on l'entend?
Ce n'est pas à moi, juif. Ce n'est pas à moi, juif, de dire à l'Église, voilà ce qu'elle doit faire. Je regarde, je constate, je vois cette volonté de transparence, cette volonté.
Mais est-ce que la loi religieuse peut être au-dessus de la loi de la République?
Le reste.
Est-ce que la loi religieuse peut être au-dessus de la loi de la République?
Mais non, mais l'Église ne dit pas cela. L'Église n'a jamais dit ça.
Le président de la conférence épiscopale l'a dit.
Et d'ailleurs, sans me faire, ce qui serait paradoxal, sans me faire à cet égard l'interprète de la pensée ecclésiastique, ce n'est pas ce que j'ai lu ni entendu. Que l'Église ait une volonté de transparence, c'est bien. Qu'elle ait un devoir de réparation, c'est très bien aussi.
Mais chacun à sa place, comme disait votre Victor Hugo.
Il ne disait pas que cela.
Évidemment. Et qu'on ne parle pas en France comme les talibans.
Il disait essentiellement, et ça résume très bien, toute la doctrine de séparation de l'Église et de l'État, toute la laïcité qui pour moi est clé de voûte de la République, Hugo disait très bien, l'Église chez elle, l'État chez lui.
Vous avez incarné le droit, vous avez dénoncé la peine de mort, et vous l'avez fait avec François Mitterrand et Jacques Chirac, sortir de la France. Vous avez dénoncé l'antisémitisme, les racismes, la misogynie, la xénophobie. Vous avez servi la République au plus haut niveau et la justice. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes considéré, et vous le resterez tout le temps, comme un symbole, parfois critiqué, et surtout reconnu et admiré pour beaucoup? Je suis trop flatteur.
Non, c'est pas ça. L'idée que je prendrais la pause et que je me regarderais dans la glace en me couronnant de laurier, ce qui serait utile pour ma calvitie, mais...
Vous laissez les autres le dire.
Non, je veux dire, il faut continuer son chemin.
Jusqu'au
toujours,
bout.
Toujours, toujours.
Vous voulez dire que c'est un combat sans cesse recommencé?
Mais oui, j'évoquais l'abolition universelle qui nous vaut cette commémoration. C'est là où s'inscrit l'avenir pour moi. Le combat contre la peine de mort dans toute l'Europe, il est achevé. J'ai évoqué l'abolition universelle. L'immense majorité des pays, il y a encore des progrès à faire. Il y a d'autres progrès dans le domaine aussi des droits humains.
Et des
il y a toujours des progrès à faire et il y aura des conflits. Et ce sera jeune génération de les pondre à cœur.
Mais
je regarde l'histoire, m'intéresse passionnément à elle, mais et je regarde aussi l'actualité.
C'est l'histoire, vous y avez votre place, c'est le Panthéon et c'est d'une certaine façon la postérité pour Robert Ballinter à travers.
Ah ben,
mais c'est pas à vous de le dire.
Non, mais non seulement c'est pas à moi de le dire, mais je dois quand même rappeler que ce qu'on semble perdre de vue, c'est que le Panthéon est un cimetière.
Non, on n'est pas pressé d'y aller, même si c'est le Panthéon. En tout cas, merci Robert Ballinter, cher Robert Ballinter, de nous avoir accordé cet entretien chez vous, dans l'immeuble où a vécu aussi Léon Blum.
Oui.
Tout près du Sénat, vous avez été sénateur, et tout près du Panthéon, vous serez cet après-midi avec le président de la République. Je vous remercie.
Merci à vous.
Vous venez donc d'entendre Jean-Pierre Elkabbach et Robert Badinter à quelques heures de cette cérémonie au Panthéon. Demain, Jean-Pierre Elkabbach recevra Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique.